Chapitre 9. Autobiographie. En décrivant les faits et gestes de Lucille lorsque le médecin lui apprenait à exercer sa vue, j'ai parlé de l'anxiété qu'elle montrait pour qu'on lui permît d'écrire. Son motif était celui de toute femme qui aime. Elle voulait se montrer sous son meilleur jour, même au préféré de son cœur. Telle était son ambition. Convaincue que son écriture, jusque-là exécutée à grand-peine et à l'aide du toucher, devait contraster désavantageusement avec celle des autres femmes qui avaient l'usage de leurs yeux, elle tourmentait le digne Allemand pour qu'il lui permît d'écrire avec ses yeux au lieu de le faire avec ses doigts, comme il le disait lui-même. Elle finit par le fatiguer, et cela, joint au progrès rapide vers la guérison complète depuis qu'elle était au bord de la mer, détermina le docteur à céder à sa prière. Peu à peu, en augmentant chaque jour la tâche qu'elle imposait à ses yeux, elle surmonta la difficulté sérieuse qu'elle éprouvait à écrire au moyen de la vue et non du toucher. Commençant par des modèles d'écriture, elle en vint à écrire des mots faciles qu'on lui dictait. De là, elle passa à prendre des notes. Enfin, elle put écrire un journal, ce qui lui fut suggéré par sa tante, qui se souvenait du temps où la poste à deux sous était inconnue, où les gens tenaient un journal de leurs propres faits et gestes et écrivaient de longues lettres, où non seulement on trouvait le temps de penser à soi-même, mais encore d'écrire ses pensées. Le journal de Lucille, pendant son séjour à Ramsgate, est devant moi au moment où j'écris ces lignes. J'avais d'abord l'intention d'y puiser pour continuer sans interruption l'histoire de Lucille en vous la donnant comme je l'ai fait jusqu'ici et comme je veux le faire ensuite quand je reparaîtrai sur la scène. Mais en y réfléchissant et en relisant le susdit journal, il me semble plus sage de laisser à Lucille le soin de raconter ce qui se passa à Ramsgate en ajoutant des annotations de temps en temps et lorsque je le jugerai nécessaire. De cette façon, nous aurons plus de vraisemblance et de variété. Pourquoi l'histoire est-elle, à part quelques brillantes exceptions, si peu intéressante? C'est parce que les événements que l'on y raconte sont décrits par des gens qui ne les ont pas vus. Tout ce que je demande, c'est de ne pas être ennuyeuse. Je n'admets pas que j'ai pu l'être déjà dans ce livre, quoi que vous en pensiez. Il y a des gens qui s'ennuient avant de commencer la lecture, et qui, ensuite, accuse l'auteur d'être fastidieux. Ainsi donc, je laisse à Lucille le soin de raconter pendant mon absence les événements qui se passèrent à Ramsgate, et je me contenterai de faire des annotations que je signerai d'un P, première lettre de mon nom. Journal de Lucille. Falaise de l'Est, Ramsgate, le 28 août. Il y a aujourd'hui 15 jours que ma tante et moi sommes arrivés à Ramsgate. J'ai renvoyé Zilla de Londres au presbytère. Ses rhumatismes la tourmentent 10 fois plus que de coutume à cause de l'air humide de la mer. Je suis un peu plus satisfaite des progrès que j'ai faits pour mon écriture. Je commence à mieux manier la plume et mon écriture ne ressemble plus à celle d'un écolier arriéré. Je saurai écrire aussi bien que n'importe qui avant mon mariage avec Oscar. Note. Ma pauvre Lucille est facile à contenter. Cette écriture dont elle est si fière est fort mauvaise. Il y a des lettres qui se touchent et semblent s'embrasser comme de vieux amis et d'autres qui semblent s'éviter. Je ne fais pas le reproche à Lucille, mais je ne veux pas que le blâme retombe sur moi si je me trompe quelquefois en transcrivant son journal. P. Mon mariage avec Oscar, quand donc serai-je sa femme? Je ne l'ai même pas encore vu depuis que je suis ici. J'ai bien peur qu'il ne soit retenu auprès de son frère. Ses lettres sont empreintes d'une certaine réserve qui m'inquiète et m'intrigue. Je ne suis pas aussi heureuse que j'attendais à l'être en recouvrant la vue. Ce n'est pas la faute d'Oscar, mais la mienne, s'il m'arrive de temps en temps d'être triste. J'ai blessé mon père et je crains d'avoir agi injustement envers Madame Pratolungo. Serait-ce ma destinée d'être toujours incomprise? Je n'avais pas l'intention d'offenser mon père par mon départ subit, départ causé par la répugnance que j'éprouve à me trouver face à face, après ce que je pense d'elle à présent, avec cette femme que j'ai tant aimée. Il est insupportable de sentir disparaître la confiance qu'on éprouvait pour une personne dans laquelle on avait une foi implicite et de continuer à rencontrer cette personne et à lui faire bon visage à toute heure du jour, comme si rien n'était arrivé. Le désir que j'éprouvais d'éviter d'autres rencontres, quand j'ai su qu'elle avait été faire une promenade, a été irrésistible. Je ferai de même si l'occasion s'en présentait encore. J'ai fait allusion à cette affaire dans la lettre que j'ai écrite à mon père, disant qu'un différend s'était élevé entre Madame Pratolungo et moi, et que cela seul m'avait fait partir si subitement. Inutile, il n'a rien répondu. Depuis, j'ai écrit à ma belle-mère. La réponse de Madame Finch m'a fait part de l'injustice dont il fait preuve en parlant de ma tante. Sans la moindre raison, il est encore plus offensé contre Mademoiselle Batchford que contre moi. Quelque triste que soit ce démêlé, j'ai toujours une consolation en ce qui me concerne personnellement. Il ne durera pas. Nous sommes sûrs, mon père et moi, de nous réconcilier un jour ou l'autre. Quand je serai de retour, je ferai ma paix avec lui et nous nous entendrons mieux que jamais. Mais qu'arrivera-t-il entre Madame Pratolungo et moi ? Elle n'a pas répondu à ma lettre. Je commence à regretter de l'avoir jamais écrite, une partie de cette lettre, du moins, la dernière. Je n'ai eu d'elle aucune nouvelle depuis qu'elle a quitté l'Angleterre. Je ne sais quand elle reviendra à Dymchurch, si elle y revient du tout. Oh, que ne donnerais-je pas pour éclaircir cet affreux mystère, pour savoir si je dois me jeter à ses pieds et lui demander pardon, ou compter parmi les plus tristes jours de ma vie celui où cette femme est venue à moi en compagne et en amie. Ai-je agi étourdiment ou ai-je agi sagement? Voilà l'interrogation que je me pose sans cesse et qui me tourmente quand je veille la nuit. Relisons, c'est au moins la 50e fois, la lettre d'Oscar. Note. Je copie cette lettre. D'autres yeux que les siens doivent la voir ici. C'est Nugent, cela va sans dire, qui écrit au nom et comme Oscar. Vous verrez comment les bonnes intentions qu'il avait en me quittant lui restèrent jusqu'à Paris et cédèrent comme il suit. P. Ma chère adorée, je suis à Paris et je saisis la première occasion de vous écrire depuis que j'ai quitté les sables. Madame Pratolungo vous aura dit sans doute qu'une nécessité subite m'a appelée auprès de mon frère. Je ne suis pas encore arrivée à l'endroit où je dois le rencontrer. Avant que je le voie, laissez-moi vous expliquer le vrai motif qui nous a séparés. Madame Pratolungo ne possède plus ma confiance. Quand vous aurez lu quelques lignes, elle ne possédera plus la vôtre. Hélas, mon amour, je vous surprends sans doute, je vous choque, je vous fais de la peine. Je sacrifierai ma vie à votre bonheur. Je vais vous le dire en quelques mots. J'ai fait une terrible découverte, Lucile. Vous avez pensé que Madame Pratolungo était votre amie. Détrompez-vous, elle est votre ennemie et la mienne. Il y a quelque temps déjà, je l'ai soupçonnée. Mes plus graves soupçons sont confirmés. Il y a longtemps que j'aurais dû vous dire ce que je vous apprends maintenant. Mais je n'aime pas à vous faire de la peine. La tristesse empreinte sur votre cher visage me brise le cœur. Ce n'est que lorsque je suis loin de vous, lorsque je crains les conséquences d'un malheur si vous n'êtes averti du danger, que je trouve le courage d'arracher le masque à cette femme perverse et de vous la montrer telle qu'elle est. Je ne puis vous donner des détails dans une lettre. Je les réserve jusqu'à notre première rencontre et jusqu'à ce que je puisse montrer ce que vous avez le droit d'exiger, la preuve de ce que j'affirme. En attendant, je vous prie de jeter un regard sur vos pensées et de vous rappeler vos paroles le jour où Madame Pratolungo vous blessa dans le jardin. Cette fois, la vérité sortit des lèvres de cette Française, et elle le savait bien. Vous rappelez-vous ce que vous dites après qu'elle vous eût suivi jusqu'au sable? Je veux dire, après qu'elle vous eût dit que vous eussiez aimé mon frère s'il s'était présenté avant moi? Et après que Nugent, grâce à elle sans doute, eut profité de votre infirmité pour vous faire croire que vous me parliez à moi. Qu'avez-vous dit quand, frémissant devant l'insulte, vous avez découvert la supercherie? Vous avez dit ces mots, ou à peu près? Elle vous a toujours haï, Oscar. Elle s'est entichée de votre frère dès son arrivée ici. Ne m'épousez pas à Dymchurch. cherchez un endroit qui leur soit inconnu. Ils conspirent ensemble contre vous et contre moi. Prenez garde à eux, prenez garde à eux. Lucille, je vous renvoie à vos paroles. À mon tour, je vous renvoie l'avertissement prophétique que vous m'avez donné alors sans en concevoir l'opportunité. Je crains que mon malheureux frère ne vous aime et je sais que Madame Pratolungo lui porte un intérêt qu'elle ne m'a jamais porté. Ce que vous avez dit, je le dis. Ils s'entendent pour conspirer contre nous. Prenez garde à eux, prenez garde à eux. Je serai en mesure de déjouer leurs machinations quand nous nous reverrons. Jusque-là, si vous tenez à votre bonheur et au mien, ne laissez pas soupçonner à Madame Pratolungo que vous connaissez ses intentions. C'est elle, j'en suis fermement convaincue, qui est coupable. Je vais retrouver mon frère, comme vous pensez, avec un tout autre objet que celui que j'ai cru devoir donner à votre perverse ami. Ne craignez pas que nous nous querellions, Nugent et moi. Je le connais, je crois fermement qu'il a été tenté et trompé. Maintenant qu'il n'est plus sous l'empire de mauvaises influences, je me porte garant de sa conduite d'homme d'honneur, et je suis certain qu'il méritera votre pardon et le mien. Le prétexte que j'ai donné à Madame Pratolungo l'empêchera de se mêler de nos affaires. Tel a été mon but en le lui donnant. Informez-moi exactement de vos mouvements et des siens. Je vous envoie une adresse à laquelle vous pourrez m'écrire avec la certitude que vos lettres me parviendront. De mon côté, je vous promets de vous écrire constamment. Encore une fois, ne confiez à qui que ce soit le secret que vous révèle cette lettre. Soyez sûr que je viendrai bientôt, avec l'autorité d'un mari, vous débarrasser de la femme qui nous a si cruellement trompés. Croyez à ma plus sincère affection, à mon amour le plus dévoué, Oscar. Note. Inutile de parler de l'astuce diabolique, je ne puis employer une autre phrase qui avait inspiré cette lettre abominable. Relisez les chapitres 27 et 28 et vous verrez avec quelle habileté les paroles que je prononçais dans un moment d'irritation ridicule et celles de Lucille quand elle s'emporta sont retournées de façon à infuser la haine dans son cœur. Nous donnons, sans le savoir à notre ennemi, la base de son complot. Quant au reste, la lettre s'explique d'elle-même. Nugent continue à remplir le rôle de son frère. Il devine aisément l'excuse que j'aurais pu donner à Lucille pour expliquer son absence. Et il élude la difficulté d'avoir semblé confier son message à une femme dont il se défie en déclarant qu'il a dû me tromper sur la nature même de ce message. Dans la suite du journal, vous verrez avec quelle habileté il fait jouer les rouages de la conspiration qu'il a imaginée. La seule explication qu'il soit nécessaire de donner, c'est que le délai, avant son arrivée à Ramsgate, dont Lucille se plaignait, n'eut pour cause que son hésitation. Le sentiment de l'honneur, comme je le suis plus tard, n'était pas entièrement éteint chez lui. Plus il s'enfonçait, plus ce qu'il y avait de bon dans sa nature luttait pour le relever. Rien, absolument rien, si ce n'est le remords, n'aurait pu le retenir à Paris. Il est inutile de dire qu'il n'alla pas plus loin et ne découvrit jamais la retraite de son frère. Après que Lucille lui eut appris par lettre que j'étais partie pour la France et qu'elle était à Ramsgate avec sa tante. J'ai fini, que Lucille continue. P. J'ai relu la lettre d'Oscar. Oscar est l'honneur même, il est incapable de me tromper. En effet, je me rappelle avoir dit ce qu'il m'attribue et l'avoir pensé aussi quand j'étais hors de moi. Cependant, les apparences ne peuvent-elles pas avoir trompé Oscar? Oh, Madame Pratolungo, j'avais de vous une si haute opinion, je vous aimais tant. Est-il possible que vous ayez été indigne de l'admiration et de l'affection que vous m'aviez inspirée? Comme Oscar, je pense que son frère n'est pas coupable. Il est triste et surprenant que Nugent se soit laissé aller jusqu'à m'aimer. Mais je ne puis m'empêcher de le plaindre. Pauvre homme, j'espère qu'il aura une bonne épouse. Comme il a dû souffrir. Je ne puis plus longtemps supporter le fardeau de l'attente. Oscar le doit, il m'éclairera de vive voix sur le compte de Madame Pratolungo. Je lui écrirai par le prochain courrier et je le presserai de venir à Ramsgate. 29 août. Je lui ai écrit hier à l'adresse de Paris. Ma lettre arrivera demain. Où est-il? Quand la recevra-t-il? Note. Cette innocente lettre fit son fatal ouvrage. Elle mit fin à la lutte avec lui-même qui retenait Nugent à Paris. Il partit pour l'Angleterre le matin même où elle lui parvint. Voici ce qu'en dit Lucide dans son journal. P. 31 août. Télégramme arrivé pour moi à l'heure du déjeuner. Je suis trop heureuse pour avoir la main ferme, j'écris horriblement. Tant pis, je ne songe qu'à mon télégramme. Oh, quelle créature que l'homme qui a inventé les télégrammes! Oscar est en route pour Ramsgate. 1er septembre. Je me sens assez calme pour revenir à mon journal et pour m'occuper un peu de tout ce que j'ai pensé et ressenti depuis qu'Oscar est arrivé. Depuis que j'ai perdu Madame Pratolung, je n'ai plus d'amis à qui je puisse confier mes petits secrets. Ma tante est aussi affable et bonne que possible pour moi. Mais comment causer avec une personne âgée qui a vécu dans un monde différent du mien et dont les idées semblent si éloignées des miennes, de mes folies, de mes extravagances, et m'attendre à une sympathie réciproque? Mon seul ami de cœur, c'est mon journal. Dans ses pages, je puis me parler à moi-même. Ma position me semble bien triste quelquefois. Aujourd'hui, j'ai aperçu deux filles sur la plage qui se disaient leurs secrets, et je crains de les avoir enviées. Je tremble de l'avouer, mais mon livre ferme à clé et je puis lui confier la vérité. J'étais prête à pleurer tant j'étais horriblement, complètement désappointée. Non, désappointée n'est pas le mot. Je ne puis trouver l'expression propre. Il y a eu un moment... J'ose à peine l'écrire, cela est si atrocement méchant. Il y a eu un moment où j'ai regretté ma cécité. Il me prit dans ses bras, il tint ma main dans la sienne. Du temps que j'étais aveugle, quel sentiment aurais-je ressenti? Un délicieux frisson aurait couru à travers mon corps. Rien de cela n'est arrivé. Son frère ne m'aurait pas produit d'autre effet. Depuis, j'ai souvent pris sa main et j'ai fermé les yeux pour tâcher de renouveler ma cécité et rentrer complètement dans mon ancienne peau. Toujours le même résultat, rien, rien, rien. Est-ce parce qu'il est, de son côté, un peu contraint auprès de moi? Quant à cela, il n'y a pas de doute. Je l'ai senti à partir du moment où il est entré. Je l'ai toujours senti depuis. Non, ce n'est pas cela. Jadis, quand nous commencions à nous aimer, il était contraint. Mais ce n'était rien alors. Je n'étais pas l'être insensible que je suis aujourd'hui. Je ne puis expliquer mes sentiments que d'une façon. Le retour de la vue a fait de moi une autre créature. J'ai acquis un sens, je ne suis plus la même femme. Ce grand changement a dû avoir sur moi une influence dont je ne me suis pas doutée avant l'arrivée d'Oscar. Aurais-je acquis le sens de la vue au prix du sens du toucher? Quand Grosse viendra, je le lui demanderai. En attendant, j'ai eu un autre désappointement. Il n'est pas de beaucoup aussi beau que je le voyais quand j'étais aveugle. Je ne le voyais qu'indistinctement le jour où mon bandeau a été levé pour la première fois. Lorsque je me précipitais dans la chambre au presbytère, je devinais plutôt que je ne vis Oscar. La tête grise de mon père et la robe de Madame Finch auraient permis à tout autre à ma place de reconnaître l'homme que j'aimais. Mais tout est changé. Je peux voir ses traits en détail et il en résulte, quoique je ne veuille l'avouer à personne, que l'idée que j'avais de lui au temps de ma cécité est bien, oh oui, bien différente de la réalité. La seule chose qui n'a pas changé, c'est sa voix. Quand il ne peut me voir, je ferme les yeux et je laisse mon oreille jouir de l'ancien charme. Voilà ce que j'ai gagné à subir une opération et à souffrir un emprisonnement dans une chambre obscure. Qu'est-ce que j'écris donc? Je devrais être honteuse. N'était-ce donc rien que d'avoir vu se dérouler sous mes yeux toute la beauté de la terre et de la mer, toutes les merveilles des nuages et de la lumière? N'est-ce donc rien de pouvoir regarder mes pareils, de voir les figures gaies des enfants me sourire quand je leur parle? Assez parlé de moi, je me sens malheureuse et ingrate quand je songe à moi-même. Parlons d'Oscar. Ma tante l'apprécie, elle le trouve beau et dit qu'il a les manières d'un homme du monde. Cet éloge est précieux dans la bouche de Mademoiselle Batchford. Elle méprise la nouvelle génération de jeunes gens. De mon temps, disait-elle l'autre jour, je voyais de jeunes hommes du monde. Aujourd'hui, je ne vois que de jeunes animaux, bien nourris, bien lavés, bien habillés, animaux à monter à cheval, animaux à ramer, animaux à parier, rien de plus. Oscar, de son côté, semble apprécier Mademoiselle Batchford à mesure qu'il la voit. Quand je le lui présentai, je fus assez surprise de le voir changer de couleur et sembler très mal à l'aise. Quelquefois, il est inquiet. Le grand air de ma tante lui en aura imposé. Note. Il faut réellement que j'interrompe. Le grand air de sa tante me donne sur les nerfs. Entre nous, ce grand air consiste en un nez crochu et en un corset très raide. Ce qui en imposa à Neguin à sa première entrevue avec la vieille dame n'était que la crainte d'être dévoilé. Il aurait sans doute appris de son frère qu'Oscar et Mademoiselle Batchford ne s'étaient jamais vus. Si vous jetez un regard en arrière, vous verrez que, par la nature des choses, il était impossible qu'ils se rencontrassent. Mais est-il également clair que Neguin pouvait découvrir d'avance que Mademoiselle Batchford ignorait ce qui s'était passé à Dymchurch? Cela lui était impossible, il ne pouvait être sûr d'être à l'abri d'une découverte tant qu'il n'aurait pas sondé le terrain en personne. Assurément, le risque était assez sérieux pour inquiéter même Neguin. Et Lucille parle du grand air de sa tante. Pauvre innocente! Je la laisse continuer. P. Dès que ma tante nous eut laissés, les premiers mots que j'adressai à Oscar furent naturellement au sujet de sa lettre sur Madame Pratolungo. Il fit un petit signe de prière et parut affecté. « Pourquoi gâterions-nous le plaisir de notre première rencontre en parlant d'elle ? » dit-il. « Ce sujet, autant qu'à moi, vous est pénible. Nous y reviendrons d'ici à quelque temps. Pas maintenant, Lucille, pas encore. » Son frère fut l'objet de ma seconde question. Je ne savais trop comment il accueillerait mes paroles sur un tel sujet. Malgré tout, cependant, je risquais une question. Il fit un autre signe de prière et parut encore peiné. Nous comprenons, mon frère et moi, Lucille. Il demeurera pendant quelque temps encore sur le continent. Parlerons-nous d'autre chose? Donnez-moi de vos nouvelles, dites-moi ce qui se passe au presbytère. Je n'ai rien appris depuis que vous m'avez écrit que vous étiez ici avec votre tante et que Madame Pratolungo avait été rejoindre son père. Comment se porte Monsieur Finch? Viendra-t-il vous voir à Ramsgate? J'hésitais à lui raconter notre différend. Je n'ai rien reçu de mon père depuis mon arrivée ici, dis-je. Puisque vous êtes de retour, je puis écrire au presbytère afin d'annoncer notre retour et savoir ce qui se passe. Il me regarda d'un air assez étrange, d'un air qui me fit craindre qu'il n'eût quelque objection à ce que j'écrivisse à mon père. « Vous voudriez sans doute que M. Finch fût ici, » dit-il. Puis il s'arrêta court et me regarda encore. « Il est très peu probable qu'il vienne, » répondis-je. Oscar semblait s'intéresser extraordinairement à mon père. « Vraiment, » dit-il, « et pourquoi ?» Je me vis forcé de faire allusion à la querelle de famille, ne disant rien, cependant, de la manière injuste dont mon père avait parlé de ma tante. Aussi longtemps que je serai avec Mademoiselle Batchford, dis-je, il est inutile d'espérer que mon père viendra me trouver. Ils sont en froid et je crains qu'ils ne se réconcilient pas d'ici à longtemps. Vous opposez-vous à ce que j'écrive chez nous pour annoncer votre arrivée à Ramsgate ? Demandai-je. Moi ? S'écria-t-il au comble de la surprise. Qui a pu vous faire écrire cela ? Écrivez, écrivez, et laissez-moi un peu de place, j'ajouterai quelques lignes à votre lettre. Je ne puis vraiment dire que sa réponse me soulagea. Il était évident que je l'avais très mal compris. Oh, mes nouveaux yeux, pourrais-je jamais me fier à vous comme je me fiais à mon toucher ? Note. Il faut vraiment que je fasse appel encore à votre bienveillance ou que j'éclate d'indignation en transcrivant le journal de Lucille, à moins que je ne me soulage de temps en temps en vous donnant des explications. Observez, je vous prie, avant d'aller plus loin, l'habileté avec laquelle Nugent a su s'implanter à Ramsgate, et comme tout se ligue, pour lui permettre de jouer le rôle d'Oscar sans crainte d'être découvert. Mademoiselle Batchford, vous le voyez, est entièrement à sa merci. Non seulement elle ne sait rien, mais elle a empêché M. Fitch d'aller à Ramsgate reprendre sa fille et de dévoiler ainsi la supercherie. De quelque côté qu'il se tourne, Nugent n'a rien à craindre. Je suis séparée d'Oscar. Quant à Mme Fitch, elle ne bouge pas de la chambre des enfants et Zillah est de retour au presbytère. Le docteur de Dymchurch, qui jadis avait donné ses soins à Oscar et qui aurait pu être un témoin dangereux, est parti pour les Indes, comme nous le verrons du reste. L'autre médecin de Londres, qu'il avait également consulté, n'a plus depuis longtemps de relation avec son ancien malade. Quant à Herr Grosse, s'il reparaît sur la scène, il fermera les yeux, comme médecin, sur ce qui se passe, car il ne se souciera absolument que de la santé de Lucille. Rien ne fera donc obstacle à Oscar, et Lucille restera à sa merci, à moins que cet instinct fidèle, et dont elle ne se rend pas compte, ne lui dise qu'elle se trompe. Finira-t-elle par écouter ses pressentiments avant qu'il ne soit trop tard? Mais il ne faut pas que cette note, insérée pour ma satisfaction personnelle, interrompe la lecture du journal de Lucille. P. 2 septembre. Il a plu toute la journée. Ma conversation avec Oscar ne vaut guère la peine d'être rapportée. Ma tante, influencée par le mauvais temps, m'a retenue longtemps dans son boudoir, s'amusant à me faire exercer ma vue. Oscar, appelé par invitation spéciale, aidait la vieille dame à imaginer toutes sortes de nouveaux moyens de mettre mes yeux à l'épreuve. Il voulait absolument voir un spécimen de mon écriture, mais j'ai refusé. Je n'écris pas assez bien, quoique j'ai déjà fait des progrès. Je ferai remarquer ici combien il est difficile de faire, pour ainsi dire, l'apprentissage d'un sens qui est nouveau. Nous avons à la maison un chien et un chat. Croiriez-vous que je les ai pris l'un pour l'autre? Et cependant, j'y vois si bien que je puis écrire sans presque faire de rature. M'étant fiée à ma mémoire pour aider mes yeux, au lieu d'appeler le sang du toucher à mon secours, je me suis trompée. Mais cela ne m'arrivera plus, car j'ai pris minet en fermant les yeux, quand donc me déferai-je de cette habitude, et en passant la main sur sa fourrure si douce et si peu semblable à celle du chien. Puis j'ai rouvert les yeux, et depuis, j'associe toujours la vue d'un chat à la sensation que j'ai éprouvée en le touchant. Une autre expérience que j'ai faite aujourd'hui m'a, en outre, prouvé que je ne faisais guère de progrès dans l'appréciation des distances. En dépit de tout cela, il n'est rien que j'aime tant que d'exercer ma vue en regardant dans le lointain, à moins cependant que je ne vienne gâter le plaisir que j'éprouve en cherchant à juger les distances. Il me semble que je m'échappe de prison après être resté longtemps dans les ténèbres, quand je regarde de mes fenêtres la ville, le promontoire qui s'avance hardiment jusqu'à la jetée et la mer qui borne l'horizon. Mais dès que ma tante se met à me questionner sur les distances, elle me gâte tout mon plaisir. C'est bien pis lorsqu'on me demande d'indiquer les proportions des vaisseaux et des barques. Quand je n'aperçois qu'un bateau, j'exagère ses dimensions. Mais en le comparant à un vaisseau, je tombe dans l'extrême opposé. J'éprouve autant de dépit que ce jour où, voyant de ma fenêtre un cheval attelé à une voiture, je l'ai pris pour un chien et une brouette. Je dois dire, il est vrai, pour m'excuser d'une méprise aussi absurde, que lorsque j'étais aveugle, je m'imaginais qu'un cheval et une voiture étaient 5 fois plus grands qu'ils ne le sont réellement. Cette explication vous fera comprendre mon erreur. Ma tante me questionnait avec un véritable plaisir. Quant à Oscar, je crois que ses interrogatoires produisaient sur lui un effet tout contraire. Devrais-je en croire mes yeux? Non, il ne me trompe pas en me le montrant tout triste et mélancolique lorsqu'il est avec moi. Trouverait-il quelque changement en moi? J'en pleure de dépit. C'est Oscar, et ce n'est pas lui cependant. Ce n'est plus le même Oscar que je connaissais alors que j'étais aveugle. Tout étrange que cela puisse vous sembler, je devinais d'instinct sa façon de me regarder. À présent que je puis le voir, je me demande si c'est bien l'amour qui se reflète dans ses yeux. Au temps où je ne me fiais qu'à mon imagination, j'aurais pu m'en assurer. Maintenant, elle ne me dit pas ce que me disent mes yeux. Je crains bien qu'il ne s'aperçoive qu'il reste incompris pour moi. Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Pourquoi, avant d'avoir connu Oscar, n'ai-je pas rencontré ce bon Ergoseux qui m'a ouvert les portes de ma nouvelle existence ? Je n'aurai plus mes préjugés, mes souvenirs qui ne me laissent aucun repos. Mais j'espère que le temps me les fera oublier et que je m'habituerai à la nouvelle impression produite sur moi par Oscar. Tenez, cet après-midi, il me passa le bras autour de la taille comme nous descendions avec Mlle Batchford dans la salle à manger. Eh bien, je suis restée froide. Il y a quelques mois à peine, tout mon être frissonnait à ce contact. Une larme vient de mouiller le papier sur lequel j'écris. Pauvre fille que je suis! Mais pourquoi vous donner tous ces détails? J'ai écrit de nouveau à mon père pour lui annoncer le retour d'Oscar en Angleterre. Je ne lui parle pas de ma première lettre restée sans réponse. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de laisser mon père revenir de lui-même à de meilleurs sentiments. J'ai montré à Oscar ma lettre où j'avais laissé un espace en blanc en le priant d'y ajouter lui-même quelques lignes. Il me demanda, pendant qu'il l'écrivait, d'aller lui chercher un objet qui se trouvait dans sa chambre. Quand je revins, il avait cacheté la lettre en oubliant de me montrer le post-scriptum. Je jugeais inutile de rompre le cachet puisqu'il m'assurait l'avoir écrit. Note. Il faut que vous lisiez les lignes tracées par Nugent au bas de la lettre de Lucille afin de comprendre le motif de sa conduite. On verra dans la suite que ce post-scriptum était d'une certaine importance. C'est en ces termes que Nugent, personnifiant Oscar, écrivait au recteur de Dymchurch. Je crois vous avoir dit combien les deux frères se ressemblaient. Ils avaient jusqu'à la même écriture. Voici le post-scriptum en question. Cher Monsieur Finch, la lettre de Lucille vous explique comment, revenu à la raison, je me retrouve auprès d'elle comme son fiancé. Si j'ajoute ces quelques lignes, c'est simplement pour vous proposer d'oublier le passé et de nous réconcilier. Nugent s'est conduite en homme de cœur. Il me délie des engagements que j'avais pris si témérairement lors de notre dernière entrevue. Il a tenu fidèlement et avec la plus grande générosité la promesse qu'il avait faite à Madame Pratolungo de découvrir ma retraite et de me rendre à Lucille. Pour le moment, il est à l'étranger. Dans le cas où vous voudriez bien m'honorer d'une réponse, je vous prie d'observer la plus grande prudence, car Lucille voudra voir votre lettre. Rappelez-vous que je suis venu la retrouver après un court séjour à l'étranger où j'étais appelé par mon frère. Vous ferez aussi bien de ne pas parler de cette malheureuse couleur qui me défigure. J'ai tout expliqué à la satisfaction de Lucille et elle a fini par s'y habituer. Cependant, c'est un sujet pénible et auquel il ne faut faire allusion que le moins possible. Tout à vous, Oscar. Je dois donner ici un mot d'explication au sujet de ce post-scriptum afin de vous montrer toute l'habileté avec laquelle Nugent continuait à tromper les gens. Écrit comme s'il venait d'Oscar et représentant Nugent comme ayant tenu toutes ses promesses, on n'y retrouve pas la politesse habituelle de son prétendu auteur, et Nugent cherche ainsi à blesser l'amour-propre de M. Finch dans un but facile à expliquer. Le recteur était homme à se fâcher en ne recevant pas d'excuses de la part de son futur gendre, surtout lorsqu'il se rappellerait la manière dont Oscar l'avait quitté. Il importait peu que les circonstances parussent excuser le fiancé de Lucille. Ce post-scriptum, bref et sans gêne, signé de son nom, était bien propre à envenimer la blessure dont souffrait déjà l'amour-propre de M. Finch et à le faire revenir peut-être sur son intention d'officier à la cérémonie nuptiale. Qu'arriverait-il alors? Un passeur quelconque, qui ne saurait distinguer Nugent d'Oscar, remplacerait M. Finch et le tour serait joué. Mais les gens les plus habiles ne prévoient pas toujours les événements. La trame la mieux ourdie a presque toujours son point faible. Le post-scriptum n'en était pas moins un petit chef-d'œuvre, mais il exposait Nugent à un danger dont il ne reconnut la présence que lorsqu'il était trop tard pour reculer. Forcé, afin de sauvegarder les apparences, de donner à Lucille le conseil d'annoncer au recteur son arrivée à Ramsgate, Il courait le risque que cette nouvelle importante ne fût communiquée par M. Finch ou par sa femme. Rappelez-vous que cette digne Mme Finch m'avait prié de lui écrire après mon départ, et vous verrez que, malgré son habileté, Nugent s'aventurait sur un terrain dangereux. Mais reprenons le journal de Lucille. P.